sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Une fois l'an, le mardi le plus proche du 25 octobre, en souvenir de la date de création de l'Institut de France, le 25 octobre 1795, les membres des cinq académies qui le composent se retrouvent sous la coupole autour d'un thème commun. C'est la séance de rentrée solennelle des cinq académies. Elle est placée cette année 2010 sous la présidence de M. Roger Taillibert, président de l'Institut pour l'année en cours et membre de l'Académie des Beaux-Arts. Après Le Courage en 2005, en hommage à Pierre Messmer, L'Homme et la Nature en 2006, L'Europe et les Académies en 2007, L'Éducation en 2008 et La Lumière en 2009, voici pour thème choisi en cette année 2010 le doute. Et l'ordre des discours est lui aussi traditionnel, en fonction de la date de création des académies, en commençant par la plus jeune et en terminant par la plus ancienne. Le premier orateur est le délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, André Vacheron, qui s'exprime sur le doute en médecine. Cardiologue réputé, il est aussi président honoraire de l'Académie nationale de médecine.
La séance est ouverte. Monsieur le Préfet, représentant Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-Président du Conseil d'État, Monsieur le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Monseigneur, Mesdames, Messieurs, chers confrères, la séance solennelle de rentrée des cinq académies perpétue la tradition célébrant la création de l'Institut de France par la loi du 3 Brumaire en 4, c'est-à-dire le mardi 25 octobre 1795, à l'occasion d'une séance plénière se tenant depuis lors le mardi le plus proche de ce point d'origine. Avant que ne commencent nos travaux pour cette année 2010, alors qu'à l'autre bout du monde s'achèvera dans quelques jours la première exposition universelle du XXIe siècle, à laquelle l'Institut et les académies furent étroitement associés, permettez-moi de m'arrêter un instant sur la dimension internationale de nos missions. Si les membres de la Convention avaient voulu réaliser le projet qui leur était cher de créer, selon l'expression bienvenue d'Ernest Renan, un Parlement du monde savant, entendant rassembler en son sein à toutes les branches de l'instruction, ce n'est qu'à l'occasion de la renaissance des académies, voulue par Louis XVIII, que les limites de ce monde ont véritablement franchi les contours de notre pays. Depuis lors, tant par l'esprit qui les anime, l'ampleur de leurs travaux et le soin porté à nouer de fructueux échanges internationaux, les membres des cinq académies ont toujours porté leur regard au-delà des frontières et veillé sans cesse à faire du Quai Conti un lieu de réunion et d'échanges internationaux. L'année 2007, avec le rassemblement en ce lieu même des académies européennes, nous a confirmé, si cela était nécessaire, que le champ d'intervention, de travail et de réflexion des académies ne pouvait se concevoir sans ouverture. Pour cette même raison, ce lieu de séance solennelle, qu'est la coupole, devra être doublé dans un avenir proche d'un lieu de travail de même ampleur, permettant le rassemblement de nombreux participants à une échelle internationale. La tradition dont cette séance est l'exemple ne se conçoit pas comme une forme immuable, mais doit permettre de tourner sereinement le regard vers l'avenir, vers des horizons renouvelés. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'Institut et les académies ont, conformément à leur mission et à leur tradition, répondu à l'invitation de participer en tant qu'invité d'honneur au pavillon de la France de l'exposition universelle de Shanghai de 2010. Celle-ci avait pour objectif de devenir la plus grande de tous les temps. Elle va sans doute y parvenir et entrer dans l'histoire, rassemblant plus de 200 pays sur le plus grand site jamais aménagé pour une manifestation internationale de ce type. Elle aura accueilli plus de 65 millions de visiteurs entre le 1er mai et le 31 octobre. Le pavillon de la France aura été le deuxième pavillon le plus visité après celui de la Chine. La présence de l'Institut et des académies s'est concrétisée de plusieurs manières. Tout d'abord par un cycle de conférences données par des académiciens ayant fait le voyage au rythme d'un calendrier très cadencé. Par ailleurs, l'Institut de France et les cinq académies étaient présentés au public venant quotidiennement visiter le pavillon par un film d'une vingtaine de minutes. Doublé en chinois ou en anglais, largement diffusé par la chaîne de télévision créée au sein même du pavillon et sur son site internet. Le court-métrage propose une exploration en images du palais de l'Institut et de la vie académique. On y découvrit notamment l'histoire du monument et de l'institution, les séances solennelles, la richesse exceptionnelle des deux bibliothèques et des archives, le patrimoine dont l'Institut est le gardien, l'importance croissante de son mécénat et de l'activité de ses fondations, la variété des prix décernés. Enfin, à l'entrée de ce pavillon, un immense panneau présentant la photo de la coupole vue du quai Conti accueillait les visiteurs. C'est dire combien l'Institut de France et les cinq académies ont eu à cœur de remplir le rôle qui leur était confié, assurant dans ce contexte peu banal, auprès d'un vaste public cosmopolite, le rayonnement du savoir français. Mais revenons sous la coupole du Quai Conti, qui réunit aujourd'hui les cinq académies autour d'un thème commun pour une réflexion philosophique au plein sens du terme. Cette année, le terme retenu est le doute. Il sera traité au cours de cette séance par cinq orateurs représentant chacune de nos compagnies. Le doute, c'est la vie. Rien n'est certain. Tout est éphémère. Ce sera l'intelligence et l'humilité que les orateurs de nos cinq académies vont faire défiler devant vous dans des espaces très différents, mais toujours attachés à la vie des hommes. Monsieur André Vacheron, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, traitera du doute en médecine. Monsieur Laurent Petit-Girard, mon confrère, siégeant au sein de la section de composition musicale de l'Académie des beaux-arts, nous fera partager son approche du doute, élément essentiel de la création. Madame Anne-Marie Fagot-Largeau, déléguée de l'Académie des sciences dans la section de biologie humaine et sciences médicales, abordera un sujet transversal à travers une question fondamentale, doute et recherche scientifique. Monsieur Pierre-Sylvain Filiosa présentera au nom de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il est le président, une approche plus orientaliste du thème avec le plaisir et la sagesse de douter. Enfin, M. Jean-Christophe Ruffin, délégué de l'Académie française, conclura en proposant en quelque sorte un pendant à cette vision du sujet avec le doute, force et faiblesse de la culture française. Mais avant de leur donner la parole, j'ai le triste devoir de rappeler le nom des membres, associés étrangers ou correspondants français et étrangers, qui nous ont quittés depuis notre séance du 27 octobre 2009. Nous avons perdu à l'Académie française Claude Lévi-Strauss, Pierre-Jean Rémy, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, André Gouron et Bernard Guéné. Parmi les correspondants, Georges Characides, Iko Hirayama et Jean Glénisson. À l'Académie des sciences, Gérard Bléric, Yvan Assange-Macher, Ivry Sotchman, Paul Malavian, Marc Julia, Georges Harpak. Parmi les associés étrangers, Carlo Sergignani, Robin Milner, Robert Pound, Vladimir Armold. Parmi les correspondants, Jacques Angelier, Claude Jean-Mar, Jean Montreuil, Marc Chabre, Noël Joseph Félicie. À l'Académie des beaux-arts, parmi les associés étrangers, Leonardo Cremonini. À l'Académie des sciences morales et politiques, Jacques Dupaquier, Maurice Allais. Parmi les correspondants, Père Pierre Blé, Christophe Zeski. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. Thank you. Nous allons maintenant entendre les orateurs délégués par les cinq académies. La parole est à Monsieur André Vacheron pour son discours intitulé « Doute en médecine ».
Monsieur le Président de l'Institut de France, Madame le Secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Claude Bernard écrit « Si un médecin se figurait que ses raisonnements ont la valeur de ceux d'un mathématicien, il serait dans la plus grande erreur et il serait conduit aux conséquences les plus fausses. C'est malheureusement ce qui est arrivé et arrive encore pour les hommes que j'appellerais des systématiques. La recherche de la vérité doit commencer par le doute, même pour les objets qui nous paraissent les plus évidents, car si cette évidence nous envahit ensuite, dit Descartes, nous aurons acquis de nouvelles preuves de la certitude. Et dans le discours de la méthode, il démontre comment le doute permet à l'homme d'action de s'imposer face au risque. Comme l'a écrit Bacon, le doute est le premier pas vers la vérité. L'homme qui sait douter se défie, et la défiance éveille le discernement critique qui apprend à distinguer le vrai du faux. Dans ses règles pour conduire l'esprit dans la recherche de la vérité, Descartes souligne la nécessité d'aller méthodiquement du connu à l'inconnu et de faire appel à tous les secours de l'entendement, de l'imagination, de la mémoire et des sens pour comparer ce qui est déjà connu avec ce qui ne l'est pas et découvrir l'un par l'autre. Le médecin qui doute ne doit pas croire ni rejeter d'emblée. Il doit laisser son esprit dans l'indécision jusqu'à l'émergence de preuves plus convaincantes qui le feront basculer du côté de la certitude ou de l'incrédulité. Pendant longtemps, le médecin a pris ses décisions fort de ses certitudes. Véritable apôtre de la vérité et de la morale, comme le définissait Georges Cabanis en 1804, cette assurance des médecins pouvait s'expliquer par leur ignorance. Leur suffisance était liée à leurs insuffisances, soulignait mon maître Jean Bernard en 1977. Je rappellerai ce jugement de La Bruyère. Les médecins sont des hommes payés pour débiter des fariboles au chevet d'un malade jusqu'à ce que la nature les guérit ou que leur remède les tue. Et Voltaire, au siècle suivant, écrit que les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Cependant, au XIXe siècle, Walter Scott constate que si Molière revenait au monde, il pourrait encore se moquer des médecins, ou plutôt de certains médecins, mais il n'oserait plus se moquer de la médecine. Les progrès de la médecine sont alors considérables, sous-tendus par deux courants. Tout d'abord, la méthode anatomoclinique, initiée par Bichat et par Laennec, fondée sur la confrontation des signes cliniques et des résultats de l'autopsie. En second lieu, le développement de la médecine expérimentale, avec les travaux de Claude Bernard, dont je rappelle l'aphorisme, est vrai. Ce qui est vérifiable, et avec les découvertes de Pasteur. En deux siècles, les avancées de la biologie, de la génétique, de l'immunologie vont dépasser les espérances les plus folles. De 45 ans à la fin du 19e siècle, l'espérance de vie est passée à 80 ans aujourd'hui. Mais l'extraordinaire expansion des connaissances va rendre souvent les actes diagnostiques et thérapeutiques de plus en plus complexes. Née après la science, la médecine rationnelle procède d'une méthodologie voisine. La formation du médecin, son expérience acquise au vécu d'un nombre suffisant de cas heureux ou malheureux, la lecture régulière des publications scientifiques vont fournir à l'ordinateur cérébral une base de données permettant au médecin d'acquérir un raisonnement intuitif et pragmatique appelé sens clinique. Ce qui distingue un bon médecin d'un praticien médiocre et que le premier a 90 chances sur 100 de prendre la bonne décision, alors que le second n'en a que 70. Cette réduction de la marge d'erreur est due en grande partie au discernement critique et à la remise en cause de l'hypothèse initiale en cas de doute important. Comme l'a écrit saint Augustin, « Si l'homme doute, il comprend. » Et Goethe le souligne, « L'expérience corrige l'homme chaque jour. » Le doute est le compagnon du médecin dès sa rencontre avec le malade. Et c'est un adversaire qu'il a pour premier devoir d'éliminer
pour parvenir à un diagnostic sûr et au traitement approprié. J'envisagerai successivement les problèmes que nous rencontrons dans la médecine individuelle de soins, que j'exerce toujours, et ceux qui sont posés aux décideurs en santé publique. En médecine de soins, la décision médicale comporte deux temps successifs, le diagnostic et le choix du traitement, qui sont le résultat d'une cascade de probabilités en situation initiale d'incertitude. Le diagnostic est factuel. Il repose sur un interrogatoire patient et minutieux, sur une écoute attentive, sur un dialogue véritable, sur un bon examen clinique et sur des données paracliniques apportées par la biologie, les épreuves fonctionnelles et les techniques modernes d'imagerie. Tous ces éléments permettent à l'heure actuelle d'atteindre le meilleur niveau de certitude. À partir de cette base, s'élabore le deuxième temps, celui de la décision thérapeutique. Le choix fait intervenir trois ordres de probabilité, les risques de la maladie, les bénéfices escomptés du traitement envisagé, ces risques possibles. Seuls, une culture et une expérience suffisantes vont permettre aux médecins de décider du meilleur choix et d'éviter des traitements inutiles ou trop risqués. Les données acquises par la science sont déterminantes. Elles font autorité en cas de contentieux jugé par des hommes de loi éclairés par des médecins experts. Aujourd'hui, elles sont apportées par l'Evidence-Based Medicine, ou médecine fondée sur l'épreuve, qui propose des recommandations de pratiques cliniques élaborées à partir d'études multicentriques randomisées, réalisées en double aveugle, ni le malade, ni le médecin ne connaît le produit administré, incluant un nombre généralement élevé de patients, suivis suffisamment longtemps pour permettre des évaluations de morbidité et de mortalité. La médecine fondée sur l'épreuve demande aux praticiens solitaires d'accepter des résultats dont il ne peut vérifier les origines et exige une foi aveugle qui peut être réductrice de son acte décisionnel. Comme l'a écrit Alain, on réfléchit mal dans une prison de preuves. Une preuve des sciences exactes reste comme un corps mort devant moi. Je la sais bonne, mais elle ne me le prouve point. Cependant, la médecine fondée sur l'épreuve n'est pas à l'abri des dérives liées aux pressions des promoteurs industriels, aux conflits d'intérêts et à l'objectivité des résultats publiés. Outil de décision, elle exige une critique raisonnée et doit faire l'objet de règles scrupuleuses de bonne pratique. La décision thérapeutique implique l'information aussi complète que possible du patient. Le médecin doit personnaliser les données de la science pour les appliquer au mieux à son malade et à ses caractéristiques psychologiques et spirituelles. Il doit laisser au patient un temps de réflexion pour prendre sa décision. Le patient peut alors donner un consentement éclairé, mais peut aussi refuser la proposition du médecin. Ce refus peut être dû à un échec de la communication, au doute du malade face à son médecin, car lui aussi peut douter. Par manque de confiance ou de compréhension. Il peut être dû enfin aux informations contradictoires données par plusieurs médecins. En cas d'hésitation ou de refus d'un traitement ou d'une opération chirurgicale justifiée, un second avis peut être demandé par le patient. Comme l'a écrit Jean Burger, la difficulté d'être à la fois ce conseiller si personnel et ce technicien si averti nécessite un effort d'invention, de création, presque de découverte, qui doit se renouveler d'un malade à l'autre. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, l'acte médical réclame une totale liberté d'esprit, de la patience, de la persévérance. La fin de vie soulève souvent des problèmes difficiles. À la question largement débattue, faut-il dire toute la vérité aux malades en péril de mort ? Je réponds sans hésitation. Que si dire toute la vérité est dans le principe une obligation formelle, il ne faut pas la révéler quand le malade n'est pas en l'état de la recevoir et qu'elle peut le désespérer. Il ne faut en dévoiler que l'infime partie qui ne ferme aucune porte. Il faut combattre l'angoisse et toujours laisser l'espérance. Nous aspirons tous à la mort douce, apaisée, sans souffrance, sans anxiété. Mais la mort frappe inégalement, injustement, tuant l'un sans le faire souffrir, précédé chez l'autre de douleurs prolongées de moins en moins supportables. Le malade peut alors supplier le médecin d'interrompre le cours d'une vie devenue intolérable, et le médecin est placé devant un dilemme. Le code de déontologie de 1995, complété par le décret du 6 février 2006, est parfaitement clair sur ce point. Le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements inutiles ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Tous ces impératifs recueillent un consentement unanime et sont parfois qualifiés d'euthanasie passive par opposition à l'euthanasie active, illégale dans notre pays, qui est l'acte délibéré de donner la mort par l'administration d'un poison. Le médecin n'a pas le droit de tuer. Il dispose aujourd'hui de traitements puissants contre la douleur et l'angoisse et doit recourir sans économie à cette euthanasie d'apaisement. Les soins palliatifs, instaurés par la loi Kouchner de 1999 et développés depuis la loi Leonetti de 2005, ouvrent une troisième voie pour sortir du dilemme en conciliant la durée et la qualité de la vie. Une unité de soins palliatifs est implantée dans chaque centre hospitalo-universitaire et il en existe aujourd'hui près d'une centaine dans notre pays. Les soins palliatifs, l'accompagnement, sont un vrai choix de société. Ils témoignent de la place et de la valeur que nous souhaitons accorder à ceux qui vont mourir. Alors que la médecine de soins prend en charge des malades, la santé publique concerne la collectivité. Avant d'être un savoir, elle est donc un pouvoir, comme le démontrent déjà les premières structures de santé publique nées au XIVe siècle dans les cités de l'Italie du Nord, avec la mise en œuvre des mesures de quarantaine et d'isolement lors de la terrible épidémie de peste qui décima en 1348 le tiers de la population européenne. La pratique médicale s'est développée au milieu de grandes incertitudes. Celles-ci n'ont jamais justifié l'inaction ou le scepticisme, mais bien au contraire ont stimulé la recherche et l'élaboration de stratégies où l'inconnu était autant que possible évalué. Au XVIIIe siècle, les épidémies meurtrières de variole s'abattaient régulièrement sur l'Europe. Voltaire écrit « Sur 100 personnes, 60 au moins ont la petite vérole », c'était le nom de la variole à l'époque. « Dans ces 60, 10 en meurent et 10 en conservent toujours le fâcheux souvenir. » Lady Worsley Montagu, épouse de l'ambassadeur anglais en Constantinople, ramène en Angleterre, en 1720, une pratique utilisée en Asie pour prévenir la maladie. L'inoculation avec des croûtes provenant d'un malade atteint d'une forme relativement bénigne de variole. Elle fait inoculer son fils sans incident. L'inoculation se répand en Europe, mais provoque quelques morts qui alarment l'opinion et le nombre des sujets inoculés reste trop faible pour prévenir les épidémies. En 1796, après avoir observé pendant des années que la vaccine de la vache, le coupox, protégeait les fermiers contre la variole, après avoir longtemps hésité, après avoir longtemps douté, Edward Jenner prélève une goutte de pus chez une jeune vachère qui avait contracté la vaccine, l'injecte à un garçonnet de 8 ans qui présente une vaccine typique et 2 mois plus tard lui inocule la variole. La maladie ne se déclare pas. Jenner répète l'expérience à plusieurs reprises avec le même succès et conclut que la vaccine maladie bénigne protège contre la variole, maladie souvent mortelle, sans avoir les risques de l'inoculation. En dépit de la crainte de l'innovation, la résistance contre cette découverte remarquable est relativement faible et en 1801, 100 000 Anglais ont été vaccinés. 2 siècles plus tard, un débat assez comparable survient à propos de la vaccination contre l'hépatite B, accusée de favoriser l'apparition de sclérose en plaques. Transmis le plus souvent par voie sexuelle, le virus responsable peut entraîner des hépatites fulminantes gravissimes et à long terme des cirrhoses et des cancers du foie. En octobre 1998, notre ministre de la Santé prend au nom du principe de précaution la décision d'interrompre les campagnes scolaires de vaccination. Cette décision très médiatisée sème le doute dans l'esprit de la population et des médecins. Plusieurs études épidémiologiques et des études américaines cas témoins démontrent l'absence de liens significatifs entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. En Italie, au Canada, la vaccination des lycéens est poursuivie sans complication. Les critiques, notamment celles de l'OMS, ont entraîné l'annulation de la décision ministérielle de 1998 sans effacer les doutes jetés dans l'esprit de nos concitoyens sur l'intérêt d'une vaccination qui protège des milliers d'adolescents de graves complications hépatiques ultérieures à l'âge adulte. Un dernier exemple des problèmes décisionnels difficiles en santé publique est fourni par la récente pandémie grippale A H1N1. La médiatisation de propos discordants, alarmants ou trop rassurants suscite des doutes dans la population sur la réalité des dangers difficiles à évaluer et sur l'innocuité des vaccins. Placée sous l'égide du principe de précaution et des recommandations de l'OMS, la décision légitime d'une vaccination de masse est mal comprise par la population et moins de 6 millions de Français seront vaccinés. Ces exemples démontrent la lourde responsabilité des décideurs politiques dans les situations d'incertitude. Comme l'a souligné Michel Barzac, l'expertise scientifique peut initier, informer, alerter, mais elle ne peut pas se substituer à l'arbitrage politique. L'information aussi complète que possible de la population sur la réalité des enjeux, la motivation des décisions, est indispensable pour obtenir sa confiance et son adhésion. Pour conclure, je dirais que le doute existe bien en médecine. Il ne doit pas être un frein pour l'action, mais un moyen pour éclairer la décision, sinon, comme l'a écrit Pascal dans Les Pensées, il ne faudrait rien faire du tout, car rien n'est certain. Je vous remercie de votre attention.
Merci, monsieur. La parole est maintenant à monsieur Laurent Petit-Girard, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Le doute, élément essentiel de la création ».
Merci, monsieur le Président. « Je ne cherche pas, je trouve », aurait dit en 1923 Pablo Picasso, semblant ainsi répondre définitivement par la négative à la question de la place du doute dans le processus créateur. Cette certitude affirmée semble rejeter toute idée de doute, à moins que ce génial créateur n'ait voulu se démarquer de mouvements artistiques, toutes disciplines confondues, qui entendaient caractériser leur originalité en faisant de leur recherche même l'objet qu'ils recherchaient ou en offrant comme seul résultat le processus d'élaboration de leur œuvre. On le comprend mieux lorsqu'on sait que ses propos exacts étaient « Quand je peins, mon but est de montrer ce que j'ai trouvé et non pas ce que je suis en train de chercher ». La notion de doute du créateur prend un sens très différent selon le stade d'élaboration de l'œuvre et l'angle sous lequel on l'examine. Le doute récurrent sur sa propre capacité à écrire au niveau d'exigence souhaitée, le doute sur la cohérence et la pertinence du travail en cours, doute sur la qualité de l'œuvre lorsqu'elle est achevée, doute sur son originalité, sur son degré d'impact, sur sa capacité de diffusion, sur sa pérennité. Ces questionnements sont de l'ordre de l'inquiétude. Mais ce qui nous intéressera ici est plus essentiel et s'apparenterait plutôt à un vertige. Pour appréhender une œuvre nouvelle, chacun dispose de ses propres équations. Mais presque tous sont confrontés au doute fondamental, à la fameuse angoisse de la page blanche et au nécessaire rejet de tout ce qui ne serait pas indispensable, c'est-à-dire à l'inévitable va-et-vient entre la plume et la corbeille. La lecture des manuscrits des compositeurs souligne à l'évidence la diversité des démarches. Depuis l'écriture rapide, quasiment sans correction, d'un Mozart, jusqu'à celle rageuse et si fréquemment raturée d'un Beethoven. Le doute du créateur commence par la tentative de se convaincre lui-même de la nécessité de l'œuvre qu'il est sur le point d'entreprendre, et chacun disposera à cet égard d'une solution différente. « Je doute avant, je doute après, pendant je travaille », disait malicieusement notre confrère Olivier Messiaen. L'inspiration naîtrait-elle du doute ou d'un labeur quotidien qui nous la ferait imaginer comme un muscle devant continuellement s'entraîner sous peine de rouiller ? Probablement des deux. Être inspiré, c'est aussi savoir se rendre disponible aux énergies qui nous entourent. Personne n'a exprimé cette douloureuse recherche de l'inspiration aussi bien que Victor Hugo dans ces quelques vers extraits du poème « Que nous avons le doute en nous ». Aussi, vous me voyez souvent parlant tout bas et comme un mendiant à la bouche affamée qui rêve assis devant une porte fermée, on dirait que j'attends quelqu'un qui n'ouvre pas. Le créateur ne peut pas se contenter de se tenir les deux pieds au bord de la falaise et de regarder pour s'en inspirer l'horizon. Ce vide qui précède l'œuvre à faire, il lui faut s'y mesurer au risque d'en perdre l'équilibre. C'est de la confrontation entre la fragilité de son désir et la force d'une technique, elle-même adossée à la sécurité d'un savoir, que peut-être naîtra l'œuvre. Mais loin d'inhiber le processus créateur, ce sentiment de déséquilibre semble incontournable. Et c'est probablement la raison pour laquelle un grand nombre d'artistes refusent toute idée de psychanalyse, persuadés qu'ils sont que l'agent essentiel de leur création est cette faille en eux qu'il ne faut à aucun prix chercher à explorer. En s'obligeant par son travail à aller chercher au fond de lui-même ce qu'il a de plus fort et de plus sacré, l'artiste se retrouve dans un état permanent d'introspection qui lui fait prendre de la distance avec toutes les certitudes établies. Dans ces moments si fragiles, il navigue entre ce qu'il pressent comme indispensable de bouleverser et ce qui constitue le socle de sa création. Je m'inscris en faux contre l'affirmation souvent entendue, quel que soit le langage qu'il utilise, un génie reste un génie. Le langage n'est pas le simple véhicule d'une pensée indépendante, et il arrive que de grands maîtres se fourvoient dans des œuvres marginales qui ne sont que le reflet de leur concession à telle ou telle pseudo-modernité. Le lien entre ce qui est le plus intime chez le créateur et le langage qui lui sert de support ne se brise pas sans risque. Il ne doute de rien, dira-t-on de celui qui entreprend de créer une œuvre ambitieuse alors que c'est précisément le moment où il doute de tout, sauf de la nécessité de se lancer dans la réalisation de ce qu'il a imaginé. On peut douter de ce que l'on va écrire sans douter du fait que l'on doive l'écrire. À la différence de l'interprète, le créateur défie le temps. Chacun se souvient du célèbre sarcasme de Sarah Bernhardt adressé à l'une de ses élèves qui lui affirmait ne jamais connaître le trac. Rassurez-vous, cela viendra avec le talent. L'appréhension de l'interprète peut être immense, mais elle trouvera le support d'un texte, alors que le doute du créateur se situe dans une perspective immatérielle et intemporelle. Pour résoudre cette équation, le plus simple est probablement d'interpréter soi-même ses propres œuvres, ce qui vous garantit de douter avant, pendant et après. La nature du matériau, qui constitue la base d'une œuvre nouvelle, conditionne celle du doute qui la précède. Qu'il sculpte un modèle ou une forme abstraite, qu'il écrive un roman historique ou un recueil de poèmes, qu'il compose un opéra d'après un livret ou un quatuor à cordes, à chaque fois le créateur sera confronté à une pléiade de doutes d'essence différentes. Qu'elles soient figuratives ou abstraites, les œuvres à vocation spirituelle ou d'inspiration religieuse sont souvent dues à des créateurs ayant transcendé leur doute d'artiste par le doute inhérent à la foi. En ces circonstances, ils ont pu donner le meilleur d'eux-mêmes. Les compositeurs manquent plus fréquemment leurs opéras que leurs requiem. Comme le disait joliment Ralph Waldo Emerson, on a besoin d'accrocher sa charrue aux étoiles. L'existence d'un matériau de base, le modèle, l'argument, le programme, le livret, souvent imposé dans le cadre d'une commande, ne diminue pas l'intensité du doute, mais le déplace dans la forme et dans le temps. Le degré d'abstraction de l'œuvre conditionne l'importance du doute primaire, celui qui précède la première esquisse. Mais si indispensable et passionnante qu'elle soit, cette étape ne doit pas durer au-delà du temps normal de maturation. Il faut au créateur la laisser s'épanouir sur l'intime conviction, sinon la certitude que l'œuvre à venir est nécessaire. Si entreprendre une œuvre pour répondre à une commande peut paraître, à l'abord, provoquer moins de doutes chez le créateur, la confrontation des premiers travaux avec le programme posera très vite la question de la capacité de l'artiste à demeurer pleinement lui-même tout en suivant ce parcours en partie obligé. Lorsque Prokofiev écrit pour le cinéaste Eisenstein, son langage garde sa force et son originalité.
Ainsi, la cantate Alexandre Nevski, tirée de l'admirable musique pour le film éponyme, est-elle devenue l'une des œuvres les plus jouées de son répertoire. Les 5h30 du Napoléon d'Abel Gance sont illustrées, lors des projections du film avec la participation d'un orchestre symphonique, par la musique d'Arthur Honegger, qui n'a en fait composé que 30 minutes de musique originale. Le reste de la partition, assemblée par Marius Constant, est constitué par 5 heures d'extraits de ses symphonies et poèmes symphoniques. Il est intéressant de constater que la puissance et le foisonnement orchestral des œuvres symphoniques correspondent parfaitement au film. Alors que la musique originale, au langage volontairement simplifié, qui ne nous offre qu'un pâle reflet de l'univers d'Arthur Honegger, est beaucoup moins efficace. Certains principes de création me paraissent n'être, en fin de compte, que des esquives au doute. Ainsi, des interminables séries de quelques plasticiens qui semblent davantage décliner un système qu'assumer une véritable recherche. Ou l'écriture dite aléatoire, qui a semblé un temps si moderne et si révolutionnaire. Là où beaucoup ont vu une forme nouvelle de liberté, ne se trouvait souvent qu'une incapacité à aller au bout d'un discours assumé en déléguant aux interprètes des schémas préétablis, modulables et aménageables selon l'humeur. Créer une œuvre dont l'essence même est que sa forme finale échappe à son créateur constitue un moyen somme toute assez confortable de s'affranchir du doute. L'improvisation, discipline largement utilisée en musique, voire au théâtre, est souvent présentée comme une forme de création immédiate, libérée par sa spontanéité des contraintes de l'écriture qu'elle a évidemment précédée. Un grand nombre de musiques dans le monde sont encore improvisées, mais souvent encadrées par des règles strictes. Utilisée par les jazzmen, l'improvisation sera la plupart du temps soumise au canevas harmonique soutenant le thème initial, ce qui permet aux différents musiciens de s'exprimer dans la même direction. Dans les musiques indiennes, des instrumentistes improvisateurs se baseront sur des modes préétablis. Leur liberté n'est qu'apparente. Les organistes, qui ont une grande tradition de l'improvisation, apprennent à la maîtriser dans sa forme la plus classique. C'est une discipline qui requiert une grande culture. L'improvisateur n'a pas le temps de se poser de questions, ou du moins, il est condamné à y répondre dans l'instant. L'inventivité dont a fait preuve Olivier Messiaen dans ses célèbres improvisations sur les orgues de l'église de la Trinité a impressionné tous ceux qui ont eu la chance d'y assister. Mais son héritage véritable qu'il nous lègue tient avant tout dans son œuvre écrite. La dimension éphémère de l'improvisation et son immédiateté soulignent sa différence fondamentale avec l'écriture, l'absence du doute. L'improvisation peut ne pas aboutir, se considérer comme une option, là où l'œuvre écrite restera un choix définitif. Cette forme achevée de l'œuvre est parfois difficile à assumer. Le regard d'un créateur sur ses œuvres de jeunesse est à ce sujet révélateur. Quel est celui d'entre nous qui, reprenant une œuvre ancienne à l'occasion d'une réédition ou d'une modification imposée quant à la durée ou à l'effectif, n'a pas été confronté à la distorsion entre le premier jet et la science acquise depuis l'écriture de cette œuvre. La technique du créateur, son savoir et son expérience se sont affirmés, mais ils ne peuvent compenser l'oubli du questionnement originel qui présidait à la création de l'œuvre. À chaque fil tiré pour parfaire ce travail de jeunesse, il prend le risque, s'il n'a pas réussi à raviver l'élan de départ, ce qui sous-entend retrouver le doute initial, de déséquilibrer l'ensemble. Le doute peut se manifester aussi dans le fait de laisser un certain nombre d'œuvres inachevées ou d'en entreprendre un grand nombre simultanément, ce qui revient au même. Là où certains ne pourront travailler que sur une seule œuvre à la fois et ne rien envisager d'autre tant qu'elle ne sera pas achevée, d'autres lanceront des dizaines d'esquisses plus ou moins élaborées pour n'en garder qu'un petit nombre, parfois aucune. Il y a souvent distorsion entre le désir, voire la nécessité d'entreprendre la création d'une œuvre et le degré de maturation par l'auteur des différents éléments qui vont la composer. Commencer une œuvre par nécessité psychologique, sociale ou contractuelle, alors que la mystérieuse alchimie préparatoire n'a pas encore porté ses fruits, entraîne presque à chaque fois un arrêt, souvent irréversible, au bout de quelques paves. Pour user d'une comparaison triviale, il en va des œuvres comme des bons petits plats, la préparation est essentielle, en arrêter brutalement la cuisson peut se révéler fatale. Pour illustrer cette faillite dans le processus créateur, je voudrais évoquer deux artistes majeurs qui ont pris la décision de détruire une partie importante de leur œuvre, quoique pour des raisons différentes, le peintre Georges Rouault et le musicien Paul Ducasse. Je dis bien Paul Ducasse, car ce génial compositeur tenait tout particulièrement à ce que l'on prononce ce S. Georges Rouault le fit d'une façon ostensible, en brûlant près de 300 tableaux, mais il faut mentionner qu'il s'agissait selon lui de toiles inachevées. Il se considérait comme trop âgé pour terminer ce travail. Beaucoup de ses œuvres faisaient partie des 700 toiles récupérées par l'artiste à l'issue de la longue procédure judiciaire qu'il avait opposée aux héritiers de son marchand, Ambroise Vollard. Quant à Paul Ducasse, son magnifique ballet « La Pairie », composé en 1912, est la dernière œuvre importante que le compositeur n'aura pas détruite. Merci à ses proches qui ont réussi in extremis à sauver ce chef-d'œuvre quelques semaines avant sa première exécution. Mais pendant les 23 années qui suivront, disparaîtront au nom d'un perfectionnisme exacerbé une seconde symphonie, un poème symphonique, un drame lyrique, deux ballets, une sonate pour piano et violon. Paul Ducasse était-il de ces artistes devenus dépendants du doute, qu'ils utilisent comme un bouclier cet état de flottement permanent les entraînant inévitablement à un perpétuel dénigrement de leur travail? Ce perfectionnisme autodestructeur constituait-il l'ultime parade du créateur devant le doute? À moins que cela ne soit l'enseignement de la composition, tout de rigueur et d'exigence, qu'il prodiguait au Conservatoire supérieur de musique de Paris, qui ne l'ait finalement inhibé. La transmission d'un savoir est une activité passionnante et envahissante, qui n'est pas toujours compatible avec les exigences de la création. En effet, si l'enseignement d'une science consiste essentiellement en une transmission de connaissances, l'enseignement de la création pose un problème bien différent. Les classes de composition musicale du Conservatoire supérieur de musique de Paris sont en principe réservées à des étudiants maîtrisant déjà l'harmonie, la fugue et le contrepoint. Ces disciplines ont longtemps constitué le chemin obligé pour prétendre concourir à l'admission dans une classe de composition. Même l'orchestration et l'analyse musicale font l'objet de classes spécifiques. Que reste-t-il alors aux professeurs de composition à enseigner ? La science de l'ordonnancement, puis de l'assimilation de tout ce qui a été appris, tout en gardant sa liberté ? L'art du vertige, la maîtrise de la peur, ou peut-être l'apprivoisement du doute. Enseigner la création consiste parfois à simplement aider le jeune artiste à dénouer lui-même les fils du carcan que la vie a créé autour de sa sensibilité. On s'imagine volontiers que le plus difficile pour un créateur serait d'écrire en ayant à l'esprit les chefs-d'œuvre absolus des grands maîtres en face desquels la comparaison semble impossible. Je pense au contraire que la fréquentation du génie est stimulante. Il est beaucoup plus inquiétant de se référer aux 20 lignes de texte ou aux 30 secondes de musique que l'on sait réussies dans l'une de ses propres œuvres plutôt qu'au théâtre de Beckett ou au prélude de Debussy. On pourrait croire que la maturité, l'expérience et la maîtrise technique acquises par le créateur contribuent à diminuer le doute. Il n'en est rien. Ai-je encore quelque chose à dire ? Telle est la question que se pose alors l'artiste qui a déjà à son actif une œuvre importante. Le doute est un moyen de remettre en cause son acquis et ses connaissances, non pas dans le but de les oublier, mais bien au contraire dans celui de les transcender. Et c'est peut-être dans la capacité des créateurs à se remettre perpétuellement en cause et à assumer les incertitudes auxquelles ils sont confrontés que réside leur singularité. Lors de la conception d'œuvres d'une longue durée ou de dimensions importantes qui s'étalent sur plusieurs années, il arrive un moment où le poids de ce qui a déjà été réalisé entraîne le créateur. Il y a là comme une revanche sur le doute, un moment où la suite apparaît comme une évidence. Ce sont des instants à savourer car ils ne durent jamais très longtemps. Ils font partie de l'aspect jubilatoire de la création, que l'on veut toujours associer à la souffrance, mais qui comprend aussi une part d'exaltation. Il y a dans l'acte de créer une dimension enivrante, comme le sentiment de participer à un banquet avec soi-même. Du fait de la longueur de leur élaboration et de leur achèvement, ces œuvres de grande dimension imposent souvent au créateur la nécessité de réaliser simultanément un projet beaucoup plus court qui va s'insérer et les obliger à suspendre leur création première. Retrouver l'intensité et le fil de l'émotion à l'issue d'une période qui ira entraîner le créateur vers des horizons très différents est une véritable épreuve qui fait ressurgir tous les doutes et jeter un regard distancié sur le travail accompli. Cela peut se révéler bénéfique ou déprimant, suivant les cas. Que l'œuvre soit monumentale ou miniature, la période qui précède le premier coup de pinceau, de burin ou de plume est un étonnant mystère. Et il reste bien difficile de définir avec précision l'importance du doute dans le processus créatif. Nous sommes dans le domaine de l'intime, de l'ineffable, et je ne peux prétendre ici que livrer le sentiment issu de ma propre expérience de compositeur. L'acte créateur me semble être le lieu où cohabitent un doute profond et une impérieuse nécessité. Le doute comme un questionnement permanent de l'œuvre en gestation. L'impérieuse nécessité d'avancer comme l'évidence que son chemin est dans la création. Voilà peut-être le fragile équilibre dans lequel se débattent ceux qui ont l'audace d'espérer tracer quelques signes dans la mémoire des hommes. Je vous remercie.
La parole est maintenant à Madame Anne Fagot-Largeau, déléguée de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours « Doute et recherche scientifique ».
Merci, Monsieur le Président. La philosophie inhérente à la recherche scientifique n'est pas une philosophie sceptique au sens radical du terme. Elle repose sur la confiance dans la possibilité de connaître toujours mieux le monde dans lequel nous nous vivons, le connaître non seulement pour le plaisir de l'émerveillement, mais pour agir mieux en fonction de connaissances qui s'améliorent. Le sceptique ne croit pas à la science, disait Claude Bernard, il croit à lui-même. Il juge que tout est opinion et que toutes les opinions se valent. Le douteur, continue Claude Bernard, est le vrai savant. Il doute de lui-même et de ses interprétations, mais il croit à la science. Claude Bernard se réfère explicitement à Descartes, qui part d'un doute universel pour arriver à des connaissances indubitables et qui soient utiles à la vie, comme il le dit dans le discours de la méthode. Descartes s'en explique fort bien quand il compte qu'il a pris conscience d'avoir dans la tête un fatras d'opinions et d'avoir essayé de déraciner de son esprit toutes les erreurs qui s'y étaient pu glisser. Je cite « Non que j'imitasse pour cela les sceptiques qui ne doutent que pour douter et affectent d'être toujours irrésolus, car au contraire, tout mon dessein ne tendait qu'à m'assurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver le roc et l'argile. » Le doute de Descartes est un doute méthodologique, c'est-à-dire un moyen de dégager des vérités qui résistent au doute, des vérités certaines. Claude Bernard, ayant salué Descartes, conclut par une sorte de devise du savant, je le cite, « Il faut douter, mais ne point être sceptique ». Objection. Lorsqu'en 2009 est paru dans la revue Science un papier d'une équipe qui affirmait avoir des données suggérant que le syndrome de fatigue chronique pourrait être dû à un rétrovirus, d'autres équipes se sont lancées sur cette piste sans parvenir à confirmer le lien fatigue chronique-virus. La même revue publie alors, en mai dernier, des commentaires montrant que, je cite, « beaucoup de chercheurs restent sceptiques ». En juin dernier, le bruit court sur le web que des chercheurs d'une agence publique américaine réputée sérieuse s'apprêtent à publier un article qui confirme le lien. Aussitôt, des malades atteints du syndrome se précipitent sur les médicaments antirétroviraux. Et du côté des chercheurs, il se révèle qu'une autre agence publique sérieuse va publier des données qui contredisent les premières. La publication des deux articles est suspendue. Rester sceptique, ici, c'est suspendre son jugement, une expression employée par Descartes, en attendant de trouver quelque chose de mieux assuré. Cette attitude rationnelle n'est pas l'apanage exclusif des savants. L'association des sceptiques du Québec, qui se donne pour objectif d'améliorer l'esprit critique de ses membres et d'accroître leur liberté de jugement devant des publicités éventuellement mensongères, précise que son scepticisme n'est pas dogmatique, qu'il ne s'agit pas de douter pour le plaisir de douter, que c'est, je les cite, « une méthode pour s'assurer que nos croyances sont raisonnablement justifiées par des faits observables, quantifiables et reproductibles ». Et ils ajoutent « notre démarche s'inspire de la démarche scientifique ». Le rapprochement entre douter et rester sceptique devant met en évidence le caractère suspensif du doute exprimé par la locution populaire « dans le doute, abstiens-toi ». La différence entre scepticisme dogmatique et doute scientifique est que le sceptique s'installe dans le doute, tandis que pour le scientifique, le doute est temporaire, c'est la suspension qui évite de juger trop vite et à tort, c'est une épreuve à traverser. Le monde de la recherche est un espace de liberté intellectuelle où toutes les idées, conjectures, hypothèses, même les plus farfelues, ont droit de citer, à condition que, au cas où elles seraient fausses, elles soient réfutables. Comme l'a bien exprimé Karl Popper, les conjectures irréfutables sont exclues. Là est la ligne de démarcation entre hypothèses scientifiques et non scientifiques. Les conjectures sont conjecturales, les hypothèses sont hypothétiques, les idées émises, tant qu'elles restent à l'état d'idées, sont des propositions à mettre à l'essai. L'ingéniosité du chercheur sera de créer un dispositif expérimental, un plan d'expérience, une manière de poser le problème, susceptible de mettre l'idée en échec. Si l'idée est fausse, elle s'effondrera et sera éliminée. On peut décrire, on a analysé le processus de recherche comme effectuant un tri des hypothèses par confrontation au réel factuel. Mais vos hypothèses, vous les construisez, on dit quelques vos faits, vous les construisez, ont dit quelques sociologues, reprenant une thèse déjà énoncée par de grands savants. Certes, mais la communauté scientifique ne se compte pas d'un seul résultat et d'une seule expérience. Elle tient compte de ce que d'autres équipes indépendantes de la première retrouvent ou non, des résultats qui concordent avec le résultat initial, et les hypothèses qui survivent durablement à l'épreuve acquièrent un pouvoir prédictif et sont considérées alors comme largement corroborées. Mais le caractère limité des observations ou expérimentations sur lesquelles sont appuyées les généralisations scientifiques fait qu'il est très rare qu'une vérité scientifique puisse être dite absolument, apodictiquement prouvée vraie. Dépendant d'un contexte scientifique évolutif, même une solide vérité scientifique, une loi de la nature, comme on dit, peut se trouver relativisée dans un contexte plus large. Il reste toujours l'ombre d'un doute sur une hypothèse. C'est si vrai que les scientifiques se méfient des théories qui s'installent et perdurent et finissent par passer pour des évidences. Claude Bernard reproche à ce qu'il appelait les systèmes d'instaurer un esclavage intellectuel. Un congrès scientifique international affichait naguère « Challenge the dogmas », « Contester les dogmes ». Ainsi, le dogme de la biologie moléculaire, un gène, une protéine, qui fut une hypothèse féconde et largement corroborée par les observations, a fini par être contesté, puis destitué de son autorité prétendue de vérité universelle. Et dans les manuels de biologie, on ne parle plus aujourd'hui des lois de Mendel, mais des expériences de Mendel qui ont dégagé des régularités approximatives caractéristiques des vivants terrestres. Un aspect du travail scientifique est donc de réduire la part du doute ou de le circonscrire. Lorsque Doll et Pitot, en 1981, s'attaquent à la question de savoir si certains cancers sont évitables, ils déclarent que si la part évitable du risque de cancer se mesure à la différence d'incidence entre les régions du globe, on peut affirmer que pour plusieurs types de cancers, il existe une fraction évitable. Le plus souvent, on ignore tout des facteurs qui influent sur le risque. On ne sait donc pas comment réduire le risque. Mais pour le cancer bronchopulmonaire, disent dans les Pitot, il n'y a pratiquement plus de doute. Depuis de nombreuses années, on soupçonnait que le tabagisme peut expliquer l'énorme montée en fréquence du cancer bronchopulmonaire. Cette hypothèse était jusque-là en concurrence avec d'autres. Mais cette fois, sur la base des données factuelles dont on dispose, on peut affirmer, disent-ils, que si personne ne fume, 9 cancers bronchopulmonaires sur 10 seront évités. Cela ne signifie ni que tous les fumeurs vont faire un cancer, ni que la fumée du tabac est la seule cause du cancer. Cela signifie que le tabagisme est le facteur qui influe le plus fortement sur le risque. L'évolution de l'épidémie dans les années suivantes a splendidement confirmé la prédiction des statisticiens. Sublata causa tollitur effectus, quand on supprime la cause, l'effet disparaît. Pourtant, certains ont continué à douter, utilisant le doute comme une arme. Un livre récent intitulé « Les semeurs de doute, The Merchants of Doubt » s'attache à montrer comment, au cours du XXe siècle, des scientifiques éminents, statisticiens et fumeurs, et rétribués par l'industrie du tabac, ont obstinément nié les méfaits du tabagisme. Et il ne s'agit pas que du tabac. Il s'est trouvé au XXe siècle des scientifiques pour nier les méfaits des pesticides, il s'en est trouvé pour nier les risques du nucléaire, des chlorofluorocarbones, de l'amiante, du réchauffement climatique. Les motivations affichées sont souvent idéologiques, défense du libre marché par exemple, et moins visibles, mais très efficaces, on trouve à l'arrière-plan des enjeux industriels et financiers considérables. On sait comment l'industrie du tabac, le lobby de l'amiante, etc., ont œuvré pour que rien ne change. L'argument asséné est toujours le même. Il reste un doute, il y a incertitude. Le lien entre l'amiante et le cancer de la plèvre n'est que probabiliste. C'est trop facile. L'argument est imparable. C'est vrai, il y a toujours une marge d'incertitude. Une science honnête ne nie pas l'incertitude. Elle ne se complaît pas non plus dans le scepticisme. Elle s'efforce d'identifier, mesurer, évaluer les risques. Elle ne les dissimule pas. Majorer l'incertitude, c'est paralyser l'action. Évaluer un risque incite à agir pour le maîtriser, et agir, c'est sortir du doute. Les médecins sont depuis longtemps familiarisés avec cette réalité. Par exemple, les cardiologues se sont intéressés au risque coronarien. Quels sont les facteurs qui influencent ce risque? Plusieurs ont été identifiés, hypertension, tabagisme, tempérament colérique peut-être. Sur le rôle du cholestérol, il y avait une hésitation. Était-ce un réel facteur de risque ou seulement un marqueur du risque? La recherche s'est poursuivie jusqu'à ce qu'en 1984, un groupe de travail qui faisait le bilan des connaissances conclut qu'on avait maintenant assez d'indices concordants, cliniques, épidémiologiques, expérimentaux, génétiques, pour pouvoir affirmer qu'il cesse d'être raisonnable de douter que l'hypercholestérolémie pèse sur le risque coronarien. Il s'ensuivait, aux yeux des médecins, qu'il fallait prendre pour objectif la réduction du taux sanguin de cholestérol chez les personnes menacées par la maladie coronarienne. Des médicaments anti-cholestérol ont été développés. La réduction du taux de cholestérol sanguin a été inscrite dans les programmes de santé publique. Des millions de gens prennent maintenant tous les jours leurs médicaments hypolipémiants, leurs statines. Cela ne signifie ni que l'hypercholestérolémie est une maladie, ni que le cholestérol en soi est toxique. Il reste un doute sur le rôle exact du cholestérol dans la maladie des coronaires. Ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs ont discerné un moment où l'on franchit un seuil, « beyond reasonable doubt », comme on dit en anglais, un moment où, donnant ce qu'on sait, continuer à douter, et donc ne rien faire, devient déraisonnable. Ce qui apparaît alors comme raisonnable, puisqu'il reste un doute, est de prendre ce qu'on appelle une précaution, ici un médicament. Les médecins sont à la fois chercheurs et prescripteurs. Ils passent donc du diagnostic à la prescription. Habituellement, ce n'est pas le rôle du chercheur de prescrire les actions à engager. Les chercheurs ont une obligation d'évaluer les risques, de dire quelle part du risque est éventuellement maîtrisable et par quels moyens, et d'informer leurs concitoyens quand ils jugent qu'on a passé le seuil au-delà duquel douter de la réalité du risque devient moins raisonnable que de le prendre au sérieux. C'est ce qu'a fait le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ils ont donné un signal. Il revient ensuite aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Des considérations extérieures à la démarche scientifique interviennent alors, touchant le bien-être collectif, le respect de certaines valeurs et tout ce qui entre dans un projet de société. Le rapport de Nicolas Stern montre comment la démarche du décideur échappe à l'emprise du scientifique. Le décideur retient qu'il y a une marge d'incertitude sur le réchauffement climatique, mais qu'on estime du côté des climatologues qu'il devient déraisonnable de rester dans le doute, c'est-à-dire de ne rien faire. Que faire, donc ? D'une part, réfléchir aux précautions à prendre dans l'hypothèse où les scientifiques ont raison et les évaluer. Ensuite, raisonner. De deux choses l'une. Ou bien on prend ses précautions, ou bien on ne les prend pas. Si on ne les prend pas et que les scientifiques se trompent, tout va bien. Si on ne les prend pas et que les scientifiques ont raison, l'avenir apparaît désastreux. Si on les prend et que les scientifiques se trompent, c'est beaucoup d'efforts coûteux pour rien. Si on les prend et que les scientifiques ont raison, on aura fait le maximum pour préparer l'avenir. Il s'agit donc de peser l'effort à faire en face des dégâts si on ne le fait pas. Construire l'avenir conduit au-delà du doute. Je vous remercie.
Merci, madame. La parole est maintenant à monsieur Pierre-Sylvain Filodia, délégué du président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Le plaisir et la sagesse de douter en Inde ».
Incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Apollinaire se plaisait dans le doute. Poète par toute son âme, par toute sa lucide intelligence, il maintenait ses sens et son esprit, toujours disposé à accueillir et concevoir la nouveauté. La certitude est une fermeture à l'évasion, un blocage de l'imagination. Il préférait reculer devant l'affirmation. Car le doute implique-t-il nécessairement une résolution qui le dépasse? Ce peut être un plaisir et une sagesse que de s'arrêter sur un doute. C'est ce que pendant des siècles des lettrés sanscrits ont montré. Des poètes se sont véritablement complus dans le doute et l'ont pris pour une fin en soi. Des théoriciens de la poésie en ont fait une fleur de rhétorique. Le poète Dandin, qui a vécu dans le sud de l'Inde au 7e siècle de notre ère, qui a ajouté quelques chefs-d'œuvre au trésor littéraire de l'Inde et qui a été un de ses premiers codificateurs, a fait du doute une forme de comparaison. Il le place, par exemple, dans la bouche d'un amoureux. Est-ce un lotus au cœur duquel se sont égarées deux abeilles ? Est-ce ton visage où frémissent tes yeux ? Mon esprit reste en balance. L'abeille indienne est plus petite que celle d'Europe et toute noire. Elle est le comparant choisi pour les yeux noirs. Le grand lotus épanoui est le comparant classique pour le visage. Le mouvement de l'abeille qui butine sur la fleur est le comparant pour le frémissement incessant des yeux de l'amoureuse. l'instabilité qui leur donne leur pouvoir de séduction. Mais la comparaison n'est ici que suggérée. Ce qui importe est le doute exprimé. L'amoureux qui prononce ce compliment se garde bien de résoudre le doute et d'affirmer la réalité. Il faut s'arrêter sur le doute. C'est là que réside l'effet poétique. En poésie, le doute s'apparente à la méprise. Elle aussi, promue au rang d'ornement poétique. Croyant voir un bouton de fleur rouge, une abeille se pose sur le bec d'un perroquet. Croyant voir un petit fruit noir du jambosier, le perroquet essaie d'attraper l'abeille. Ne cherchons pas à réparer l'erreur, on y perdrait la poésie. Le doute s'apparente de même au souvenir. Quand je vois un lotus, dit l'amoureux, le visage de ma bien-aimée envahit mon esprit. Le doute, l'erreur, le souvenir sont trois rouages de la création poétique. Les poètes sanscrits se sont manifestement complus dans de tels événements de la connaissance. Dans la culture des lettrés sanscrits, la poésie n'est pas un domaine à part. Toutes les disciplines s'interpénètrent. À l'égard du doute et même de l'erreur, des penseurs, et non des moindres, ont agi comme les poètes. Ils leur ont donné une place centrale dans leur spéculation, jusqu'à en faire, comme eux, une fin en soi. Vers le VIe siècle avant notre ère, est né au pied de l'Himalaya un prince, Siddhartha Gautama, du clan des Shakya, qui a renoncé à tous les privilèges royaux et a vécu une vie austère de religieux errant pour se faire, non pas philosophe, mais médecin de la douleur des hommes. Il est alors devenu le Bouddha, l'éveillé. À la manière d'un médecin, il a reconnu la violence et tous les maux de la vie ordinaire comme des symptômes extérieurs d'un mal plus profond qu'il définit comme un cycle incessant de phénomènes psychologiques s'enchaînant les uns aux autres et dont le premier moteur est le désir et qui détermine indéfiniment naissance et renaissance. Si c'est dans l'esprit des hommes que naît la douleur de l'expérience, le remède est la discipline de l'esprit. Dans le cycle des opérations psychologiques, on peut agir sur le désir, le contrôler en dépréciant par exemple les objets qui le suscitent. On peut aussi agir sur les opérations de la connaissance, assurer la perfection d'une connaissance en la mettant à sa place dans ses limites, en éludant les fausses certitudes. Et dans son enseignement, le Bouddha a effectivement éludé l'affirmation comme la négation. Il s'est placé à l'écart des grandes controverses philosophiques, s'est tenu à égale distance des thèses opposées. Il a ainsi fondé une voie du milieu, destinée à un immense développement tout au long de l'histoire. C'est ce qu'on appelle le Madhyamaka Shastra, la science du milieu, une discipline à part entière. Le grand docteur bouddhiste Nagarjuna, qui a vécu vers le IIIe siècle de notre ère dans le sud de l'Inde, a porté sur le plan métaphysique le doute sur les opinions divergentes et l'attitude de ne prendre parti pour aucune. Mais si l'on reste au niveau du doute, sans opter pour l'une ou l'autre de deux alternatives, quel est le moyen terme où s'engager ? Pour Nagarjuna, le milieu est de proclamer l'inanité des deux alternatives. C'est la célèbre vacuité d'être propre du bouddhisme. L'exemple trivial, classique, en est celui du moine qui, par un défaut de vision, voit des mouches dans son bol, alors que le moine aux yeux sains y voit du riz. Et si l'on ne juge pas lequel des deux a raison, on ne peut dire qu'une seule chose, le bol est vide et il n'y a pas d'objet à juger. On ne prendra pas cette démarche comme une méthode de recherche de la vérité. Elle ne mène pas, elle ne doit pas mener à une décision sur la vérité. Elle est une discipline pour se pénétrer de l'impermanence des choses, de l'infirmité du psychisme de l'homme à accéder à la vérité absolue. Le but final est de se dégager de l'attachement aux choses du monde en prenant conscience de leur absence de valeur absolue. L'image du défaut de vision du moine traduit l'idée d'une ignorance métaphysique, celle de la vacuité. Dans l'expérience pratique, le connaissable, accessible à l'homme, peut être pris pour une réalité. Mais cette réalité est une couverture d'une réalité ultime qui est la vacuité. Or, c'est dans l'expérience de cette réalité empirique, seconde, dite de recouvrement, que l'homme rencontre inévitablement la douleur. L'issue, hors du mal de vivre, est de mettre à leur place de vérité seconde les connaissances qui nous sont accessibles. Vers la même époque que le Bouddha, dans la même plaine du Gange, est né un autre prince, Vardhamana Mahavira, qui de la même façon a renoncé aux privilèges de la noblesse et, partant des mêmes principes, a vécu une semblable règle de vie. On leur a donné à tous deux le titre de Jina, le vainqueur, parce qu'ils avaient vaincu leur passion. L'histoire a cependant fait diverger profondément les religions qu'ils ont fondées. Le bouddhisme a quitté son pays d'origine pour conquérir toute l'Asie orientale. Le jainisme est resté indien. Il a cristallisé dans sa littérature doctrinale les plus originales des conceptions de logique et d'épistémologie que les lettrés sanscrits ont conçues. Il concevait la destinée humaine comme affectée par un lien aux actes, servitude dont on se dégage par une connaissance transcendantale qui est l'apanage des âmes délivrées, telles que celles qu'on appelle les Tirthankara, les passeurs de gué, suprêmes guides vers la transcendance. À la connaissance parfaite s'oppose la connaissance empirique, et il importe de prendre conscience du caractère relatif de cette dernière. À cette fin, les logiciens Jaina, qui n'ont pas connu de limite à la subtilité, ont édifié une théorie du doute qu'ils ont appelée Anekantavada, la doctrine des multiples points de vue. Les choses ont une infinité de propriétés. L'être non omniscient qu'est tout homme en ce monde ne peut en toute conscience faire d'affirmation absolue à partir d'un seul aspect des choses. Les logiciens Jaina ont synthétisé la prise de conscience de la diversité des points de vue en lui donnant une forme verbale dans une série de 7 formules. Ils l'appellent Saptabhangi, les 7 inflexions de la connaissance, ou encore Syadvada, la doctrine du peut-être. Chaque formule comporte le mot sanskrit syat, qui est le potentiel du verbe asti, être. Il se traduit littéralement par peut-être. On pourrait traduire l'idée qu'il contient aussi par d'une certaine façon. Il s'agit, dans toute proposition affirmative ou négative, de réserver la possibilité de tout autre point de vue, voire de déclarer son indétermination. Voici donc les 7 inflexions Jaina de la connaissance. Syadastieva, peut-être existe-t-on, c'est-à-dire que l'on existe d'une certaine façon, par exemple en tant qu'homme, sur cette terre, en tel temps, mais pas autrement. Syanastieva, peut-être n'existe-t-on pas. Négation qui réserve la possibilité des points de vue précédents. Syadastieva, syanastieva, peut-être existe-t-on, peut-être n'existe-t-on pas. D'un certain point de vue, la durée de la vie humaine, par exemple, existence et non-existence se succèdent. Syad avaktavyameva, peut-être est-ce non exprimable. D'un autre point de vue, on ne peut parler d'existence et d'inexistence simultanées. Syad estieva, syad avaktyavameva, Peut-être existe-t-on et peut-être est-ce non exprimable. Sian nastieva siad avekyaveameva. Peut-être n'existe-t-on pas et peut-être est-ce non exprimable. Siad astieva siad nastieva siad avektaviameva. Peut-être existe-t-on, peut-être n'existe-t-on pas et peut-être est-ce non exprimable. Tout ceci est un entraînement à considérer la multiplicité des vues possibles sur les choses, une invitation à s'arrêter sur la relativité des connaissances. On a parfois interprété la vacuité bouddhique comme un nihilisme, le doute jaina comme un scepticisme. En fait, ces deux pensées distinguent deux niveaux de réalité, l'un empirique, que les bouddhistes veulent vide, et les jainas relatifs, l'autre transcendant. D'autre part, ces pensées ne sont un nihilisme et un scepticisme au niveau empirique que par opposition au niveau transcendant. Ces disciplines de doute ne dissolvent pas ni ne relativisent la réalité empirique en tant que telle, mais le font seulement en tant que cheminement dans une quête mystique du transcendant. Elles sont préconisées pour une vie monastique. Les moines jainas sont des extrémistes dans la sévérité de la discipline. Ces deux grandes religions n'en restent pas moins pratiquées par des millions de fidèles laïcs, engagés dans les vicissitudes de la vie et très éloignés des subtilités de la scolastique sanscrite. Mais ils connaissent les vertus des religieux et les exemples des saints. Ils les vénèrent. Ces exemples leur font savoir la fragilité des certitudes, la vacuité des affrontements d'opinion, la vertu de la pratique des multiples points de vue et leur inspirent la tempérance des jugements et le respect de l'opinion d'autrui. L'Inde d'aujourd'hui est un vaste continent profondément divisé. On y pratique de multiples religions, hindouisme prédominant, lui-même divisé en une multitude de croyances, islam, jainisme, bouddhisme, zoroastrisme, animisme, christianisme. L'Inde est subdivisée en 28 États. Elle a 18 langues officielles, un millier de parlers appartenant à trois familles linguistiques profondément différentes, une extrême diversité de coutumes et de traditions. Cela fait vivre ensemble d'innombrables communautés, avec souvent des risques d'affrontement. Mais l'Inde possède un immense patrimoine immatériel de culture et de sagesse qui lui apporte l'unité et la rend indivisible. Elle peut toujours y puiser les vertus idéales à opposer aux tensions, aux heurts, à la violence. Et dans ce précieux patrimoine, elle dispose d'une culture du doute, ancrée dans le respect d'autrui, la tolérance et la non-violence qu'elle a consacrée comme la première des vertus.
La parole est maintenant à M. Jean-Christophe Ruffin, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Le doute, force et faiblesse de la culture occidentale ».
Merci, M. le Président. En 2005, l'Institut de France rendait hommage à Pierre Messmer qui quittait ses fonctions de chancelier. À son intention, la séance d'ouverture, cette année-là, prenait pour thème le courage. 5 ans plus tard, à ce même pupitre, nous sommes commis devant vous à discourir sur le doute. Quel changement d'époque ! Et quelle meilleure preuve que les sujets abordés pendant cette séance à la fois confraternelle et solennelle ne sont pas de simples exercices de style. Rapprocher ces deux moments, c'est faire apparaître une évidence cachée. En peu d'années, nous sommes en train de passer de la génération du courage à la génération du doute. La génération du courage, peu à peu, s'efface et prend sa place dans l'histoire. J'ai mentionné Pierre Messmer, je devrais aussi évoquer Jean Bernard, Jean-Jacques Pack, Hubert Curien ou Maurice Druon, grands résistants, hommes de combat et d'honneur qui nous ont quittés. Heureusement, notre compagnie peut encore compter sur la présence de plusieurs témoins de cette génération du courage, en particulier M. François Jacob ou Mme Simone Veil. Et d'autres parmi nous, avec des parcours différents, ont traversé les mêmes épreuves et incarnent aussi l'engagement et le courage. Reste que le temps fait son œuvre et les éloigne trop souvent de nous. Cette génération du courage a dominé les décennies glorieuses de l'après-guerre au cours desquelles la France a changé de visage. Elle a accompagné l'immense transformation des techniques, des mœurs et des rapports sociaux, aussi bien qu'internationaux, qui a caractérisé ces années de prospérité et de progrès. Par son aura, son énergie, son brio, cette génération du courage a conservé aux institutions académiques une place de premier plan, vitrine culturelle d'une France victorieuse et entreprenante, celle du Concorde, de la dissuasion nucléaire, du pont de Tancarville, du paquebot France, etc. Elle a su prolonger ce prestige bien au-delà des Trente Glorieuses. Quand mai 68 secouait le pays, quand la crise pétrolière venait déjà l'affaiblir, quand l'effondrement de l'URSS bouleversait les équilibres mondiaux. Sans cette génération du courage, le doute aurait pu s'installer beaucoup plus tôt. Elle l'a rejeté dans l'ombre. Mais aujourd'hui, l'éclat des armes qui cuirassaient les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale n'aveugle plus nos yeux. Et rien ne nous protège. Nous contemplons le monde nouveau avec des yeux dessillés et nous sommes naturellement saisis par le doute quant à la place qui occupe désormais la France. Ce que nous voyons, c'est la crise profonde que traverse aujourd'hui notre pays et sa culture. Pour être exact, il faudrait d'ailleurs dire les crises, car elles sont à mes yeux de trois ordres. Crise de la France en elle-même, crise des rapports entre la France et les autres pays occidentaux, et enfin crise de l'Occident lui-même auquel nous appartenons face au reste du monde. Crise de la France en elle-même. Notre confrère Pierre Nora a bien analysé la transformation radicale de notre pays au cours de ces dernières décennies. Je le cite, « d'une nation étatique, guerrière, majoritairement paysanne, chrétienne, impérialiste et messianique, nous sommes passés à une France atteinte dans toutes ses dimensions et qui se cherche souvent dans la douleur. L'affaiblissement extrêmement rapide de ce qu'il a appelé l'identité nationale républicaine s'accompagne d'un affranchissement général de toutes les minorités, sociales, sexuelles, religieuses, régionales. Or, pendant ces mêmes années, la composition de la population a elle-même beaucoup évolué, enrichissant notre pays d'autant de groupes capables de se revendiquer comme minorité. La croissance économique a attiré vers la France de nombreux ressortissants de son ancien empire, qui véhiculent le souvenir tenace et souvent douloureux de la période coloniale. D'autres migrants, avec la mondialisation des échanges, proviennent d'aires géographiques et culturelles encore plus éloignées, Chine, Sri Lanka, Amérique latine. Ils n'ont guère d'histoire commune avec la France et transportent avec eux leurs cicatrices, leurs ambitions, en un mot, leur mémoire. Cette diversité nouvelle, ces fractures mémorielles, constituent autant de défis culturels à relever pour la France contemporaine. Dans le domaine linguistique, par exemple, l'Académie française, gardienne de la langue et par conséquent chargée tout à la fois de la préserver et de la faire évoluer, en est bien consciente. Chaque groupe aujourd'hui cultive ses codes linguistiques. La question des langues régionales ressurgit. L'expression littéraire elle-même fait éclater les repères classiques sous l'influence d'auteurs venus d'aires francophones diverses, voire d'autres univers linguistiques. Le domaine de l'histoire voit également surgir de nouvelles difficultés. Dans un pays qui a depuis longtemps pour référence une histoire extrêmement homogène et normative, l'irruption des mémoires minoritaires, certains diront communautaires, tend à frapper toute l'histoire de la nation des stigmates du nationalisme. Comment, dès lors, concevoir l'histoire, la philosophie et même la littérature française ? Paul Thibault a écrit il y a quelques années un livre intitulé « Que doit-on enseigner ?» Ce titre résume presque à lui seul les multiples questionnements de la génération du doute. Crise des rapports entre la France et les autres pays occidentaux. Pour en mesurer la profondeur, il faut rappeler d'où nous partons. La France a exercé pendant plusieurs siècles un magistère culturel quasi universel. De Voltaire à Camus, de Victor Hugo à Mauriac, les grandes figures culturelles françaises étaient également de grandes figures occidentales et même mondiales. Ce n'est pas que d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, n'aient pas eu de grands penseurs. Mais aucun d'eux n'a pu rivaliser avec la France dans la catégorie dont nous sommes sans doute les créateurs et en tout cas les maîtres, celle des intellectuels. Nous sommes les irremplaçables producteurs de ces esprits brillants, incarnation du bon goût, fût-ce pour prêcher la Révolution, plus familier de la conversation que de la discussion, préférant la clarté à la vérité, maniant l'humour plus aux dépens des autres que d'eux-mêmes, mais sachant surtout, admirablement, incarner l'esprit de leur temps. Ce qui nous apparaît en général comme l'âge d'or de notre histoire culturelle, c'est cette époque où, comme l'écrit Marc Fumaroli, l'Europe parlait français, c'est-à-dire où le règne de la France sur les esprits européens allait de pair avec l'usage généralisé de notre langue parmi les élites. Cette double prééminence a été progressivement remise en cause et de façon accélérée pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Point n'est besoin de revenir sur la considérable poussée de la langue anglaise, en particulier dans les registres scientifiques, diplomatiques, économiques. Mais dans le domaine culturel, je veux dire dans le domaine des œuvres, la montée en puissance du monde anglo-saxon est aussi évidente. Ceci vaut pour la culture de masse, en particulier le cinéma, adossé à de considérables puissances financières. Mais cela concerne aussi le domaine intellectuel. Nombreux sont désormais les pays, à commencer par les États-Unis, qui disposent d'économistes, de philosophes, de sociologues et bien sûr d'écrivains dont l'audience est mondiale. La France produit toujours de brillants intellectuels et quelques-uns peuvent se prévaloir d'une audience internationale. Cependant, leurs décrets ne font plus trembler la planète et l'écho de leurs querelles ne retentit plus aux quatre coins du monde habité. Ils se sont par ailleurs pour la plupart ralliés aux conceptions libérales et démocratiques, ce qui leur ôte ce parfum de révolte et d'utopie qui était un de leurs plus puissants attraits. Par ailleurs, la France engendre toujours quantité de spécialistes exceptionnels à la renommée internationale. Nos académies sonores d'en compter plusieurs. Et nous déplorons à ce propos la disparition récente d'un des plus emblématiques d'entre eux, Claude Lévi-Strauss. Reste que ces individualités sont elles aussi attirées par le centre américain où elles sont souvent amenées à séjourner, à enseigner, voire à émigrer. Enfin, crise de l'Occident face au reste du monde. C'est la moins facile à percevoir, mais peut-être la plus inquiétante. À l'époque où notre académie a été fondée, l'univers se réduisait au pourtour de la Méditerranée. Le Mayflower avait emmené les pères fondateurs en Amérique depuis à peine 15 ans. L'élargissement progressif du monde n'allait en rien remettre en cause la prééminence européenne. Au contraire, la colonisation constituait une sorte de dilatation de notre continent, et en particulier de la France, à l'échelle du globe entier. Aujourd'hui, le mouvement s'inverse. L'Europe a payé cher les guerres qui se sont déroulées sur son sol. Elle s'est retirée de ses colonies. Ce que l'on a appelé le tiers-monde, à compter de la conférence de Bandung, a connu un essor considérable. Essor démographique, d'abord, qui réduit très fortement le poids relatif de l'Europe. Essor économique, qui concerne aujourd'hui non plus seulement quelques petits dragons asiatiques, mais d'immenses ensembles, comme le Brésil, l'Inde ou la Chine. Essor culturel, surtout, qui n'est pas réductible au précédent. Un continent comme l'Afrique, dont la situation économique est contrastée, à certains endroits prometteuses, mais dans beaucoup d'autres catastrophiques, ce continent n'en a pas moins produit une culture extrêmement féconde dans tous les domaines musical, pictural et littéraire. Devant ce paysage nouveau, on peut comprendre que l'on soit saisi par le doute. Doute quant à la place de notre pays, de notre culture, de notre langue, dans un monde aussi radicalement bouleversé. A priori, le doute est une faiblesse. Tel est du moins le sens commun. Celui qui ne doute de rien semble avoir un avantage sur l'indécis. Et en effet, notre doute serait une grande faiblesse s'il nous conduisait au pessimisme et au renoncement. En cheminant dans les couloirs de cette maison, en passant devant les bustes de pierre ou de bronze de nos illustres prédécesseurs, nous sommes accoutumés à ce sentiment d'humilité qui nous fait nous sentir bien petits. À titre individuel, c'est plutôt un signe de bonne santé. Mais si nous l'appliquons à toute la nation et à toute l'époque, si nous pensons que la France aujourd'hui ne vaut pas celle d'hier, si nous sommes gagnés par l'idée que la France, quand elle n'est plus tout, n'est plus rien, alors oui, le doute est une grande faiblesse. Ce serait ignorer et trahir l'extraordinaire créativité française actuelle dans tous les domaines, littéraire, théâtral, cinématographique, architectural, chorégraphique, scientifique, tous les domaines. Ce serait méconnaître la capacité d'attraction que continue d'exercer notre langue dans le monde. Lorsque l'on évalue la francophonie au nombre de locuteurs du français, on passe à côté de ce qui en fait la spécificité et la force, la dispersion planétaire de ceux qui parlent le français. La francophonie n'est pas la caractéristique linguistique d'un bloc de peuples regroupés sur une même aire géographique, comme l'allemand par exemple, c'est un trait d'union entre différentes régions du globe. Et dans une période où le monde redevient multipolaire, l'hégémonie de l'anglais n'est plus une fatalité. Dans de nombreux pays, le français est même vu comme une alternative culturelle et politique. C'est notamment le cas dans les grands pays émergents, puissances d'aujourd'hui, mais surtout de demain, que sont le Brésil ou la Chine. Comme nous le rappelait notre président, la suite du voyage de l'Institut à Shanghai, le pavillon français de l'exposition universelle a été le deuxième plus visité après celui de la Chine. Il y a donc une autre forme du doute, plus créatif et en même temps plus combatif. Un doute qui nous fera chercher les moyens de relever les défis de ce temps et de donner à la France sa place, toute sa place, dans un monde globalisé. Un doute qui doit nous faire poser des questions pour l'action. C'est ce doute qui inspire les interrogations qui traversent aujourd'hui nos institutions et en particulier l'Académie française qui me délègue devant vous. Tout nouveau venu dans cette compagnie a tendance à mettre l'accent sur les nécessaires évolutions. Et nos aînés ont la grande sagesse de nous rappeler les vertus de la tradition. Dans une France en quête de repères, la continuité historique de l'Académie est une grande force. Nous ne devons pas oublier que cette institution a été créée au moment où la France traversait une période de guerre civile autrement plus critique que la nôtre et qu'elle a peut-être contribué à jeter les bases de la renaissance politique et culturelle qui a suivi les temps sanglants de la Fronde. Alors, dans une époque où tant de choses sont éphémères, la tradition que nous représentons matérialise la permanence de la nation à travers la continuité des siècles. Elle est certainement l'une de nos fonctions essentielles. Pour autant, l'Académie a su évoluer. Ainsi, au tournant des années 60, a eu lieu l'élection du premier étranger de naissance en la personne de mon prédécesseur, Henri Troyat. Il fut rapidement suivi de beaucoup d'autres, qui représentent presque tous les continents, comme Léopold Sédar Senghor, Julien Green, Hector Bianchotti, François Chang, etc. Comment prolonger cette ouverture et faire en sorte qu'elle nous permette de refléter aujourd'hui la diversité de la France? Bien d'autres évolutions peuvent être envisagées qui posent autant de questions délicates et qui donnent l'occasion d'exprimer nos doutes et nos interrogations de façon constructive. Quelle place, par exemple, devons-nous réserver à la littérature par rapport à d'autres formes de création en rapport avec l'écrit? En particulier, comment mieux représenter parmi nous le domaine audiovisuel et bien sûr d'abord le cinéma? Comment nous adapter aux champs nouveaux que constituent le monde virtuel et la planète Internet? Comment défendre la francophonie sans marginaliser la culture française dans les circuits de production culturelle dominés par le monde anglo-saxon? Le doute est à l'origine de toutes ces interrogations. Mais ce doute-là est constructif. Ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire une force. Nous devons en être conscients et le revendiquer, car le doute est peut-être la caractéristique la plus profonde de la culture française. À l'époque où fleurissent partout les intégrismes, où tant de gens sont prêts à oxyre leur prochain au nom des convictions qu'ils considèrent comme indiscutables, le doute est un instrument précieux. La dérision, l'humour, la tolérance, le respect des différences sont les fruits de cet arbre du doute que la France cultive depuis Montaigne et qui fait d'elle le pays de la liberté. À ce propos, je ne crois pas inutile de rappeler pour conclure que la naissance du doute, justement, chez Montaigne, fut d'abord la conséquence d'une défaite. Nous sommes en 1555. La France envoie une flotte pour conquérir le Brésil. Les Français ont la ferme intention d'apporter la civilisation aux cannibales qui peuplent la baie de Rio. Mais finalement, sur la petite île où ils accostent, au pied du pain de sucre, les colons vont s'étriper au nom d'obscures querelles théologiques. En somme, ce sont eux qui vont se conduire comme des sauvages. Et l'expédition tournera court et préfigurera les guerres de religion. Cependant, il se trouve que l'un des protagonistes de cette expédition, ridicule, en rentrant en France, va devenir le secrétaire de Montaigne. Il lui raconte son aventure et fait naître en lui le doute. Et si nous étions plus barbares que les cannibales, écrit en substance Montaigne dans le chapitre fameux du deuxième livre des Essais, intitulé précisément « Des cannibales ». Ainsi crée-t-il la figure du bon sauvage. La fortune philosophique de ce concept sera immense tout au long du XVIIIe siècle. Les idées de tolérance, de respect des cultures, en un mot d'humanité qui en procéderont, sont parmi nos plus précieux apports à l'histoire. Ainsi, de la déroute des Français au Brésil, sont nées, par le détour de Montaigne, les idées libératrices dont nous serons les propagateurs dans le monde entier. Cet exemple doit nous rappeler que le doute est une plante qui pousse volontiers sur les décombres de la puissance. Elle fend le marbre froid des grandes théories et des pouvoirs sans contrepoids. La voir fleurir en ce moment doit plutôt, à rebours des fausses évidences, nous rendre confiants dans notre avenir.
Merci, monsieur. La séance est levée.
Vous venez d'entendre les 5 académiciens qui se sont exprimés tour à tour sur le thème choisi en commun pour l'année 2010, le doute. C'était la rentrée solennelle des 5 académies de l'Institut de France.